Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci.
Dans votre clémence, exaucez, Seigneur, la prière de votre peuple. Faites que, justement affligés pour nos péchés, nous soyons miséricordieusement délivrés pour la gloire de votre nom, par Jésus-Christ, etc. Mes très chers frères, le temps de la grande pénitence chrétienne s'ouvre par le dimanche de la Septuagésime, dont nous venons d'entendre l'oraison. Le carême commencera dans quelques semaines, mais déjà pour les religieux, le carême commence le dimanche de la Septuagésime. Le temps de la pénitence s'ouvre donc aujourd'hui, jour dimanche de la Septuagésime. Comment profiterons-nous de l'opportunité qui nous est donnée par l'Église de faire pénitence pendant 70 jours si nous n'avons qu'une idée vague de la nature et de la raison de la pénitence? Il y a une erreur que je m'empresse dès cette introduction de dénoncer et bon, je m'empresse de vous avertir, mais je m'empresse de vous avertir, mes très chers frères, c'est l'erreur, et c'est très à la mode aujourd'hui, enfin ça l'est depuis un moment, mais apparemment ça l'est encore plus aujourd'hui, c'est de l'erreur consiste à croire que le carême est l'occasion d'un jeûne thérapeutique. C'est très à la mode, les jeûnes thérapeutiques, alors je ne dis pas que c'est inutile et que c'est faux, ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est que, mes très chers frères, je vous le dis dès à présent, comme ça vous commencerez pour vous préparer pour le carême, au moins sous cet angle-là, c'est que si vous voulez perdre tous les fruits et tous les mérites du carême, préparez-vous à faire un jeûne thérapeutique. Véritablement, si vous voulez véritablement vider le carême de sa substance, et si vous voulez le naturaliser, et si vous voulez en faire un sujet d'orgueil, un sujet de bien-être et un sujet de vanité, alors préparez-vous à faire un jeûne thérapeutique. Autant dire que nous devons, mes très chers frères, nous préparer à entrer dans le carême par un esprit de pénitence telle que l'Église l'a définie, et non pas telle que finalement la concupiscence, encore elle, arrive à la déguiser, à la transformer pour en faire quelque chose qui est à notre intérêt, l'intérêt du vieil homme. Sinon du vieil homme en tant que tel, mais du moins du corps de mort que nous portons. Il nous faut aujourd'hui, et ça va être le thème de ce sermon, étudier de près l'oraison, cette oraison de la Septuagésime que vous venez d'entendre. Il nous faut l'étudier de près, de telle sorte que nous puissions en tirer, avec l'aide du Saint-Esprit, autant de sucs que nous le pouvons, de telle sorte que nous puissions commencer à nous préparer à rentrer dans le temps de carême, qui est, à proprement parler, le temps de la pénitence pour tous les chrétiens. Il y a plusieurs choses à voir. Premièrement, nous verrons, avec l'aide de Dieu, quelles sont les dispositions qu'il faut avoir pour être exaucé. Et nous nous poserons par la même occasion la question: qu'est-ce que la prière? Dieu est-il obligé de nous exaucer? Et nous verrons que toutes ces questions, qui paraissent des questions inutiles, ne sont pas du tout oiseuses. Au contraire, ce sont des questions que nous devons nous poser de temps en temps afin de pouvoir être exaucés. Ensuite, nous verrons, toujours par l'étude de l'oraison d'aujourd'hui, que nous nous poserons la question: dans quel état sommes-nous, nous qui prions en Église? Et nous verrons que cette oraison nous donne la clé de la pénitence en nous montrant exactement dans quel état nous sommes, dans quelles conditions nous sommes. Et enfin, mes très chers frères, nous verrons que si nous voulons être délivrés, encore faut-il savoir de quoi exactement nous sommes esclaves. Et nous terminerons en voyant quelque chose sur l'humilité. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Nous verrons donc aujourd'hui, mes très chers frères, essentiellement l'oraison. Preces populi tui que sumus, Domine clementer exaudi, c'est la première partie. Ut qui iuste pro peccatis nostris affligimur, deuxième partie. Pro tui nominis gloria, misericorditer liberemur, c'est la troisième partie. Preces populi, dans votre clémence, exaucez, Seigneur, la prière de votre peuple. Alors littéralement, preces populi tui, les prières de votre peuple, que sumus, s'il vous plaît, Domine, Seigneur, clementer exaudi. Exaucer avec clémence. Exaucer avec clémence, Seigneur, nous vous en supplions, les prières de votre peuple. Il s'agit donc d'être exaucé. Et nous savons que l'exaucement est auprès de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas un Dieu méchant qui joue au chat et à la souris avec ses enfants. Si nous apprenons de l'Église à prier, c'est que Dieu veut nous exaucer. Mais si nous voulons être exaucés, encore faut-il avant tout faire partie du peuple de Dieu. C'est ce que cette prière nous enseigne. Preces populi tui qui sumus domine clementer exaudi. Avant de dire domine, avant de dire exaudi, avant même de dire clementer, nous disons populi tui. C'est-à-dire, de votre peuple, les prières, Seigneur, s'il vous plaît, exaucez-les avec miséricorde, avec clémence. Populi tui. L'Église ne nous fait jamais dire les prières des hommes, les prières de l'humanité, les prières des peuples, les prières des nations, c'est-à-dire des païens. Elle nous dit toujours les prières, nous fait toujours dire les prières de votre peuple, ou les prières de vos familiers, les prières de vos enfants, mais c'est toujours les prières de cette entité spéciale qui, au sein de l'humanité, est la seule à être entendue par Dieu. Les hommes de toutes les religions prient, seuls les chrétiens sont entendus par Dieu. Les hommes de toutes les religions font monter vers Dieu leurs prières, seules les prières des chrétiens sont exaucées. Dieu détourne son oreille de toutes les prières que lui font les hommes, non pas parce qu'elles ont tel ou tel défaut, mais parce que ce ne sont pas les prières de son peuple. Qu'est-ce que le peuple de Dieu ? Ce sont les hommes, c'est cette portion de l'humanité pour laquelle le Christ est venu et pour laquelle il a versé son sang. De telle sorte que tous ceux qui, dans l'univers, sont baptisés, sont mis au bénéfice du sang versé du Christ, font partie du corps messique du Christ, font partie de l'Église. Je m'empresse de dire que malheureusement il existe des baptêmes que l'on peut recevoir et qui sont des baptêmes d'hérétiques ou de schismatiques. Alors, ce n'est pas un traité sur le baptême ici, mais avec le baptême, sans lequel on ne peut pas, absolument pas être entendu par Dieu, à moins que ça soit une prière pour se convertir évidemment, mais ça c'est autre chose. Sans le baptême, sans lequel on ne peut pas faire partie du peuple de Dieu, sans le baptême, on ne peut pas faire partie du peuple de Dieu, mais encore faut-il avoir la foi orthodoxe quand on est baptisé. Donc nous présupposons, mes très chers frères, que les baptisés dont il est question ici, c'est-à-dire vous, possédez la foi orthodoxe, c'est-à-dire la foi catholique, celle qui est énoncée dans le credo, celle qui est enseignée par la Sainte Église catholique, de telle sorte que nous sachions exactement de quel chrétien il s'agit. Il ne s'agit pas de chrétien hérétique, de chrétien schismatique, etc. Il s'agit de catholique. Encore faut-il, donc, il faut avoir le baptême, sans lequel nul ne peut être sauvé. Il faut avoir la foi orthodoxe, sans laquelle le baptême ne sert pas à grand-chose. Mais lorsqu'on a le baptême et la foi orthodoxe, encore faut-il avoir les œuvres. Car la foi sans les œuvres, la foi orthodoxe évidemment, sans les œuvres est morte. Les démons croient et ils tremblent, les démons ont la foi, si j'ose dire, puisque pour eux c'est une évidence, mais à quoi cela leur sert-il? Vous allez dire, ils ne sont pas baptisés, évidemment, mais pour l'homme, qui n'est pas un pur esprit, l'homme qui a le baptême et l'homme qui a la foi orthodoxe, encore faut-il qu'il ait les œuvres de la foi orthodoxe. Sinon, la foi sans les œuvres est morte, elle ne vaut pas plus que la foi des démons, et le baptême est un signe qui sert à l'accuser devant Dieu et à le faire juger plus sévèrement qu'un malheureux qui mourrait sans baptême. Ce sont les trois caractéristiques fondamentales de ceux qui peuvent être exaucés. Ils ont le baptême, ils ont la foi orthodoxe, ils ont les œuvres de la foi orthodoxe. Vous remarquez, mes très chers frères, que lorsque l'Église nous fait prier « Preces populi tui », les prières de votre peuple, elle exclut que l'on puisse, en tant qu'individu, prier et avoir une relation avec Dieu indépendamment du corps de l'Église. Il y aurait beaucoup de choses à dire, je me contente de dire une seule chose. Si l'on est un catholique et que l'on prie à Dieu, et que l'on se croit membre du corps de l'Église, et que d'une certaine manière on l'est, par le baptême et éventuellement par la foi orthodoxe, eh bien, si l'on se comporte d'une façon qui est étrangère à l'insertion dans l'ordre des choses, c'est-à-dire dans la hiérarchie ecclésiale, alors on prie en individu et on n'est pas écouté par Dieu. C'est pour cela que bien des gens qui s'autoproclament super catholiques, militants, défenseurs de la foi, etc., ne sont jamais que des individus en marge du corps mystique du Christ, dans lequel ils ne s'insèrent pas, car pour s'insérer dans le corps mystique du Christ, il faut vivre selon les conditions de son état. L'état le plus bas est l'état laïque, ensuite c'est l'état sacerdotal, ensuite c'est l'état épiscopal, et évidemment en haut, tout en haut, il y a la fonction pontificale suprême. Donc d'une manière ou d'une autre, même lorsque le pape prie, il faut qu'il prie en église. S'il prie en tant qu'individu tout seul, séparé et indépendant du corps du Christ, il n'est plus écouté, il n'est plus entendu par le bon Dieu. Le peuple de Dieu, c'est donc le corps mystique de son Fils, dont nous sommes les membres, vivants ou morts, ça dépend, mais si nous avons la foi, le baptême et la foi sans les œuvres, nous sommes les membres morts du corps mystique du Christ, que Dieu nous rende la vie. Si nous avons le baptême, la foi et les œuvres, nous sommes les membres vivants du corps mystique du Christ, que Dieu soit loué. Le peuple de Dieu, c'est donc le corps mystique de son Fils. Il est aussi caractérisé par la communion des saints. C'est-à-dire que nous devons prier les uns pour les autres, prier de telle sorte, prier en Église, c'est une expression qui est très courante, mais lorsque nous prions en Église, nous disons « Notre Père ». Même si je suis tout seul, même si je suis tout seul dans ma chambre et que je ferme la porte selon la parole de notre Seigneur, je prie notre Père. Je ne dis pas mon Père qui êtes aux cieux. Notre Père. Parce que nous prions toujours, même s'il n'y avait plus qu'un seul chrétien au monde et qu'il était exilé sur une île déserte, il prierait notre Père. Pourquoi? Parce que s'il est le seul chrétien qui reste sur la terre, il n'en reste pas moins qu'il y en a des millions et des millions au ciel. Et c'est pour cela qu'il doit dire « Notre Père », car lorsqu'il prie, il prie dans le corps mystique du Christ, il prie en tant que membre du corps mystique du Christ, et c'est ce que nous enseignent ces deux mots « Populi tui », « votre peuple ». Dieu n'écoute pas les prières de l'humanité, Dieu écoute les prières de son peuple. L'humanité doit rentrer dans l'Église, l'humanité païenne peut invoquer Dieu pour lui demander la grâce de rentrer dans son corps mystique, évidemment. Mais il n'écoute pas les prières des païens comme il écoute les prières des enfants de Dieu. Il prie en vain, et c'est dire que les chrétiens ne prient pas en vain. Alors tâchons, mes très chers frères, chaque fois que nous prions, d'avoir conscience que nous prions en tant que membres du corps mystique du Christ. Ce sont des évidences, encore faut-il le dire. Preces populi tui, les prières de votre peuple. Alors, les prières, justement. Maintenant, nous savons de qui elles sont, ces prières. Voyons un petit peu brièvement les prières. Il faut que ce soit les prières du peuple de Dieu et de lui seul. La prière est la voix, nous dit notre Père Saint Augustin, la voix que la tête profère au profit du corps. C'est-à-dire que notre prière, qui est la prière de l'Église, et la prière de l'Église, c'est la prière, c'est la voix est matérialisée en quelque sorte, ou est réalisée par la voix de l'unique tête. Il y a un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Il y a plusieurs membres qui forment un seul corps, qui n'a qu'une seule tête. Et c'est cette tête, c'est dans cette tête que se situe la bouche, dit notre Père Saint Augustin, de telle sorte que lorsque le corps prie, c'est la bouche qui appartient à la tête qui profère les paroles. Chaque fois que nous prions en tant que membre du corps du Christ, du corps mystique du Christ, en tant que membre du peuple de Dieu, et c'est moins nous qui prions que le Christ qui prie. Nous prions les prières du Christ. L'Église nous enseigne à prier, de telle sorte que nous prions les paroles de celui qui seul au monde est aimé par son Père. Dieu n'aime personne sinon son propre Fils, et tous ceux qui sont en son Fils, tous ceux qui sont à son Fils. C'est donc la voix de la tête qui profère au profit de son corps les prières que l'Église nous enseigne. Ne nous disons pas, alors à quoi bon prier, puisque de toute façon c'est le Christ qui prie. Ne raisonnons pas comme des imbéciles, mes très chers frères. Si nous prions, nous avons cette pieuse audace, nous osons dire, comme nous disons juste avant de réciter le Pater Noster dans la messe, nous osons dire, instruits par de tels préceptes, nous osons dire Pater Noster. Instruits par l'Église, nous osons prier et nous savons que cette audace est une audace très limitée, parce que c'est moins nous qui nous approchons du trône de Dieu avec nos paroles, que nous qui en priant, nous associons à celui qui prie pour nous et qui intercède pour nous, qui est notre avocat auprès du Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que l'on dit à Dieu n'est pas une prière. C'est pour cela que nous devons prier à Dieu selon l'Esprit de Dieu et par les paroles du Christ même, c'est-à-dire les paroles de l'Église dont nous sommes les enfants, dont nous sommes les membres. C'est pour cela que les apôtres nous ont donné les mots par lesquels l'Église peut, disons, qui plaisent à l'Église, apprenez-nous à prier. Les apôtres ont dit à notre Seigneur, apprenez-nous à prier. Et nous-mêmes, nous disons à l'Église, apprenez-nous à prier. Pour apprendre à prier, mes très chers frères, il faut bien regarder, bien prendre en considération, non seulement les paroles des oraisons des messes, en général, mais aussi les structures, la structure de ces oraisons, de telle sorte que nous puissions avoir la bonne disposition dans notre esprit, afin que nous puissions mettre à profit les paroles que l'Église nous donne. Si nous voulons apprendre à sculpter dans la pierre, nous devons non seulement avoir le marteau des sculpteurs, mais nous devons avoir aussi les muscles des sculpteurs. À quoi sert-il d'avoir les outils, le marteau, le burin du sculpteur, si nous n'avons pas les biceps du sculpteur qui est habitué à utiliser ces outils qui, certes, sont nécessaires à son travail, mais aussi qui possèdent un certain poids en eux-mêmes, une certaine maniabilité qui est limitée pour ceux qui n'ont pas le physique de l'emploi, comme on dit. Eh bien, mes très chers frères, nous devons non seulement utiliser les paroles de l'Église, mais nous devons aussi utiliser la forma mentis. Et nous devons nous approprier la forma mentis, c'est-à-dire la mentalité, la forme intérieure de notre raisonnement, de telle sorte que nous puissions prier selon l'esprit même de Dieu, qui a inspiré à l'Église les prières qu'elle nous apprend. Preces populi tui, les prières de votre peuple. Les paroles oiseuses de ceux qui ne cherchent que leur profit individuel ne sont pas des prières. C'est pour cela que dans l'Écriture, il est écrit « Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en abomination à Dieu. » Il y a bien des prières que nous faisons monter à Dieu qui sont en abomination à Dieu. La prière, mes très chers frères, le catéchisme nous dit que c'est une élévation de l'âme à Dieu. Il nous faut donc prier avec attention, et prier d'une façon inattentive, c'est blasphémer. Prier sans vouloir être exaucé, c'est prier une prière sacrilège. Vous voyez, quand il y a des gens qui, pour rien au monde, ne rateraient la messe du dimanche parce qu'ils sont catholiques avant tout, certes, c'est très bien, mais qui, dans la messe, sont d'une indifférence totale à ce qui se passe, et spécialement, sinon à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais aux prières qui sont proférées, ces gens-là, d'une certaine manière, font bien d'assister à la messe car ils le doivent, mais en même temps, ils commettent un sacrilège. Leur obligation de chrétien ne sert qu'à les enfoncer sous le poids de la colère de Dieu. Prier avec inattention, c'est blasphémer. Prier sans vouloir être exaucé, c'est commettre un sacrilège. À ce titre, tous ceux qui sont dans l'Église, mes très chers frères, ne plaisent pas forcément à Dieu, et c'est pour cela que saint Paul aujourd'hui nous rappelle que de tous nos pères qui ont été dans le désert et qui ont été baptisés dans la nuée et qui ont mangé de la manne divine, eh bien tous, et qui ont bu au rocher spirituel qui les suivait, tous, la plupart d'entre eux, dit-il, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Soyons attentifs. Il n'y a pas de chrétien sociologique, ça ce sont des constructions de sociologues, disons d'une certaine manière, je ne dis pas que le fait d'écrit n'existe pas, mais ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des chrétiens certes, parce qu'ils ne sont pas autre chose, mais sont-ce vraiment des chrétiens? Sont-ce des membres vivants du corps mystique du Christ? La théologie nous dit que ce sont des membres morts. Il vaut mieux être un membre mort du corps du Christ que d'être un païen, certes, mais on va au même endroit, et c'est même pire. Donc c'est bien la prière de l'Église que nous devons proférer. Nous devons la proférer en demandant à Dieu, en disant à Dieu « s'il vous plaît, quae sumus ». Il faut demander et il faut savoir que c'est aujourd'hui le jour du salut, comme dit l'Écriture. Quae sumus, écoutez nos prières, nous vous demandons. Il y a une prière dans la prière, il y a une grande prière qui nous fait nous demander ce que nous sommes en train d'étudier. Et puis dans la prière, il y a une petite prière, il y a la petite prière consiste à dire « S'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir exaucer ma prière ». Il y a une prière dans la prière. Cette prière n'est pas simplement une politesse, « Quesumus » signifie à peu près « s'il vous plaît », mais justement, « s'il vous plaît » en français, « Quesumus » signifie « nous vous demandons », mais c'est l'équivalent de « s'il vous plaît ». S'il vous plaît, c'est-à-dire que si vous voulez bien, vous voyez, en français, s'il vous plaît, c'est juste une forme de politesse. Mais quand on l'a dit à Dieu, on dit « Seigneur, qu'il vous plaise d'exaucer la prière que, non pas moi, mais votre peuple fait monter vers vous, et moi avec lui, puisque j'en suis part, par le baptême, par la foi orthodoxe et par les œuvres. » C'est donc aujourd'hui le jour du salut. Et nous demandons à Dieu, « Preces populi tui quesumus domine », donc à Dieu, notre maître, domine, domine, c'est ici le maître. Nous ne disons pas « Seigneur Tout-Puissant », etc., comme nous le disons dans d'autres oraisons. Domine ici, c'est notre maître. Nous sommes les serviteurs de ce maître très aimant qui a fait de nous ses enfants dans le Christ. « Preces populi tui quesumus domine », les prières de votre peuple, s'il vous plaît, Seigneur, « Clementer exaudi ». Clementer. C'est-à-dire avec clémence. Clementer exaudi, exaucer avec clémence. Exaudi, Dieu veut nous exaucer, mais dans le Christ seulement. Dieu d'ailleurs ne peut nous exaucer que dans le Christ. Si nous nous approchons indépendamment du Christ, autrement que mus par le Saint-Esprit, par les grâces prévenantes évidemment pour entrer dans l'Église, mais si nous nous approchons de lui comme un chrétien, vous savez, comme un chrétien indépendant qui s'approche de Dieu avec des prières qui sont plus ou moins inspirées de telle ou telle prière catholique, il fait horreur à Dieu. Il est face à Dieu, il s'imagine être face, lui, individu chrétien face à Dieu, il fait horreur à Dieu, il est sur le point d'être frappé par la colère de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne tolère qu'on le prie, qu'on lui demande quelque chose, que dans son Fils. Dans son Fils, Dieu veut tout nous donner. Hors de son Fils, il ne veut rien nous donner, et il ne peut rien nous donner, parce qu'il ne peut plus que nous châtier. En dehors de son Fils, Dieu n'a plus de possibilité que de nous châtier. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la nature, nous sommes, selon le premier Adam, nous méritons la faute, le péché, à cause de notre faute. Dans le Christ, notre Sauveur, Dieu veut nous exaucer, Dieu peut nous exaucer. Parce que le Christ est notre médiateur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, qui nous a rachetés par son sang et qui a fait de nous un peuple, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, clémentaire, il veut nous exaucer dans le Christ seul, mais clémentaire, exaucer avec clémence, Seigneur. Pourquoi avec clémence ? Dieu, mes très chers frères, pourrait être en colère. Il pourrait même être en colère contre nous, puisqu'il est un feu dévorant et que nous sommes des pécheurs. Même si nous avions gardé l'innocence baptismale, Dieu pourrait, dans l'absolu, être en colère contre nous parce que nous avons été ses ennemis. À un certain moment de notre existence, nous avons été ses ennemis. Et abstraction faite de l'œuvre rédemptrice du médiateur, du Christ, eh bien, nous sommes toujours les ennemis du Christ, nous sommes toujours les ennemis de Dieu, c'est pour cela qu'il ne faut pas nous séparer du corps mystique du Christ, essentiellement par l'absence d'œuvre, ou par évidemment l'adultération de la foi, parce que sinon nous retombons dans le champ terrible du feu de la colère divine. L'Église est l'arche du salut. Si l'arche de Noé voguait sur les flots déchaînés du déluge, imaginez que l'arche de l'Église vogue en quelque sorte sur les flots déchaînés de la colère, du feu de la colère de Dieu. Les manifestations de la colère de Dieu sont visibles de diverses manières. Des fois on les voit par les événements météorologiques, on les voit par les tremblements de terre, on les voit par les incendies, etc. Ça peut être des manifestations de la colère de Dieu, mais ce ne sont pas les pires manifestations de la colère de Dieu. La pire manifestation de la colère de Dieu, qu'il soit donné à l'homme de voir ici-bas, qu'est-ce que c'est ? C'est quand les vertus des mécréants sont pratiquées par eux avec persévérance. Elles les aveuglent et les poussent à l'orgueil, et l'orgueil est la chose qui met le plus Dieu en colère. De telle sorte que lorsque la colère de Dieu se déverse sur les hommes, ces hommes peuvent fort bien s'avérer très, très vertueux, mais indépendamment de la grâce de Dieu. Or, une vertu la vertu d'un païen ne vaut pas mieux qu'un vice, que le vice d'un païen. Elle est différente, évidemment, ce n'est pas la même chose. Il vaut mieux qu'il soit vertueux que vicieux. Néanmoins, les païens vicieux peuvent éventuellement avoir honte d'eux-mêmes. Les païens vertueux sont tellement fiers d'eux-mêmes qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils excitent la colère de Dieu, car Dieu déteste tout ce qui n'est pas dans son Fils, tout ce qui ne relève pas de son Fils, sachant que nous ne sommes pas des êtres purement naturels, nous sommes des êtres dans la nature déchue. Le moderne, le mécréant, n'est pas simplement un homme tel que Dieu aurait pu le créer s'il ne lui avait pas donné l'innocence au début. Le païen, le mécréant, le moderne est un monstre d'orgueil, un monstre de concupiscence, un monstre de vertu, si j'ose dire, qui excite la colère de Dieu. C'est pour cela que nous disons, nous qui, d'une certaine manière, ne sommes absolument pas différents de ces monstres dont nous venons de parler, la seule différence que nous avons, qu'il y a entre eux et nous, c'est que nous avons reçu la grâce pour ne plus l'être. Nous disons donc à Dieu, « Les prières de votre peuple, Seigneur, exaucées miséricordieusement, sans regarder à nous, sans regarder à notre indignité, sans regarder à ce que nous avons été, et hélas, sans regarder à ce que nous sommes bien souvent. » Clémenter, donc, Seigneur, les prières de votre peuple, exaucez, s'il vous plaît, avec clémence. La deuxième partie maintenant. Ut cuiuste propecatis nostris affligimur. Restons dans là pour l'instant. Afin que nous qui, à juste titre, iuste propecatis nostris, à cause de nos péchés, affligimur, sommes affligés. Tout d'abord, « ut », toujours ce « ut » dans les prières qui indique ce que nous voulons demander, ce que l'Église nous fait demander à Dieu. Il s'agit de l'exaucement de notre prière. L'exaucement de notre prière est une grâce que seul notre Seigneur Jésus-Christ a mérité, nous a mérité. Donc, nous demandons à Dieu très humblement qu'il nous exauce, qu'il exauce les prières de son peuple avec clémence, afin que, et ce « afin que » est déjà en lien avec notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut rien demander à Dieu, et a fortiori on ne peut rien attendre de Dieu, que par notre Seigneur Jésus-Christ et lui seul. Qui iuste, nous qui, à juste titre, l'Église nous fait décrire notre condition. Nous y reviendrons. Nous qui iuste, nous qui, à juste titre, affligimur. C'est le verbe. Nous sommes affligés. Alors il faut voir d'abord le verbe afin de pouvoir comprendre tout le reste. Nous sommes affligés. Mais en français, le mot affligé, surtout à notre époque, ne veut pas dire grand-chose de bien terrible. Quand on dit oui, nous sommes, c'est une attitude affligeante, je suis affligé par un tel comportement, ça veut dire je suis triste, je suis peiné, je suis chagriné, je suis choqué. C'est assez loin de affligimur ici. Affligimur, c'est un passif d'abord. Et puis ça signifie que nous ne sommes pas affligés par nature, spontanément, mais nous sommes affligés, c'est-à-dire fustigés, frappés, châtiés. Affligés ici, l'affliction, c'est pas simplement la tristesse, comme on le voit dans notre langage, c'est la tristesse qui vient d'un châtiment, c'est le fait d'être châtié. C'est un passif ici. Nous qui sommes affligés, nous qui sommes châtiés. Nous sommes fustigés, nous sommes châtiés. Alors, l'Église, disais-je, nous fait décrire notre condition. Ce n'est pas tellement pour apprendre à Dieu ce que nous sommes, que pour nous apprendre à nous, qui parlons à Dieu, dans le Christ, par l'Église, ce que nous sommes et dans quelles conditions nous sommes. Tout ce qui nous arrive, nous fait dire l'Église, nous arrive, tout ce qui nous arrive de pénible, nous arrive comme un châtiment. Certes, vous direz, le saint homme Job était affligé, mais ce n'était pas un châtiment. Certes, vous êtes sans doute Job. Bon. Donc, le juste aussi est frappé, et le juste par excellence a été frappé, a été fait malédiction pour nos péchés. C'est vrai, notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, mais sommes-nous justes, mes très chers frères? Donc, l'Église nous fait dire, nous sommes frappés, à cause de nos péchés, et c'est pour cela qu'il est dit en toutes lettres, pro peccatis nostris, à cause de nos péchés, pour nos péchés. Ayons sans cesse, mes très chers frères, ayons sans cesse nos péchés sous les yeux, évaluons à sa juste mesure l'immensité de l'abîme de notre concupiscence, et nous verrons que Dieu nous épargne largement la plupart du temps. Vous voyez, si à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, nous disons « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» nous ne sommes, je vais dire un euphémisme, nous ne sommes pas dans les conditions pour pouvoir être exaucés. Si à chaque fois que les hommes nous fustigent, nous insultent, nous frappent, nous persécutent, nous disons « mais qu'est-ce qu'ils sont méchants, qu'est-ce qu'ils sont idiots de ne pas voir à quel point je suis gentil », nous ne sommes pas, encore une fois, dans les conditions requises par l'Église pour nous faire exaucer par Dieu. Si nous avions un juste regard porté sur ce que nous sommes véritablement dans notre corruption, la corruption de notre concupiscence, nous verrions qu'en réalité, presque tout ce qui nous arrive, quasiment tout ce qui nous arrive, eh bien, est quelque chose qui est vraiment en dessous de ce que nous méritions. Imaginez le moindre, pensez au moindre péché, la moindre parole oiseuse que nous avons dite, la moindre prière que nous avons priée d'une façon négligente, le moindre manque de charité que nous avons eu, la moindre rébellion que nous avons eue face à Dieu, nous nous apercevons que cela nous mérite rien moins que l'enfer. Alors lorsque Dieu nous envoie quelque affliction, comprenons que ce sont vraiment des afflictions extrêmement légères qui sont la plupart du temps sans proportion avec ce que nous méritons. Alors vous allez dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ne me fait pas subir les conséquences de mes péchés ici-bas? Comme ça, moi, je pourrais faire pénitence. Quelle témérité, mes très chers frères. Lorsque nous lisons la vie de certains saints, nous voyons que certains saints ont eu la grâce de faire leur purgatoire ici-bas. Et ils ont vécu véritablement l'enfer ici-bas et le purgatoire ici-bas, de telle sorte que lorsque nous les voyons, lorsque nous lisons leur vie, les cheveux se dressent sur notre tête lorsque nous lisons ce qui nous est rapporté d'eux, à leur propos. Donc vous voyez, faisons très attention lorsque nous disons avec un sourire et une sorte de sagesse stoïcienne et mondaine, oui, ici-bas c'est un purgatoire, il nous faut tout accepter pour le purgatoire. Il se trouve que, d'une certaine manière, parce que nous ne sommes pas capables de supporter ici-bas les peines du purgatoire, Dieu nous envoie un certain nombre de peines pour que, au moins, nous ayons l'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas capables de supporter tout ce qui nous serait nécessaire et juste pour expier ne serait-ce que les péchés que nous avons commis depuis notre baptême. Un peu d'humilité, mes très chers frères, en ce début de temps de pénitence. Pro peccatis nostris affligimur. Nous sommes châtiés, nous sommes flagellés, donc nous sommes affligés pour nos péchés. L'Église nous fait donc décrire notre condition à Dieu, pour que nous la connaissions. Nous ne venons pas à Dieu en tant que chrétiens, en tant qu'orthodoxes, à Dieu en disant « Voilà, Seigneur, exaucez-nous, car nous seuls avons conscience des malheurs du monde, et nous sommes de vrais dissidents, etc. » Non. Nous, Seigneur, exaucez les prières de votre peuple, nous qui sommes affligés pour nos péchés. D'une certaine manière, c'est presque donner le bâton pour se faire battre, mais c'est le seul moyen, comme nous le disons souvent, et comme le disent souvent les pères, bien entendu, c'est le seul moyen de désarmer Dieu. En lui disant, Seigneur, nous sommes pécheurs, nous méritons d'être affligés. C'est le seul moyen de détourner le coup que Dieu veut nous porter. Si nous lui disons, Seigneur, je ne suis pas finalement aussi pécheur qu'un autre, je ne suis pas aussi pécheur que je pourrais l'être, je suis pécheur certes, mais regardez aussi mes vertus, regardez tout le bien que je fais, regardez ma charité, regardez ma patience, etc. Tout ceci ne fait qu'armer le bras de Dieu contre nous. La seule façon de désarmer le bras vengeur de Dieu contre nous, qui se lève contre nous, c'est de lui dire, Seigneur, ayez pitié de moi, je suis un pécheur. Ayez pitié de moi, Seigneur, exaucez-nous, nous qui sommes affligés à cause de nos péchés. Nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas justes. S'il y a un juste, c'est vous, c'est votre fils. Et moi, je ne suis qu'un pécheur. Considérant en moi-même, je ne suis qu'un pécheur. Et je suis affligé pour mes péchés. Et je le suis justement. Justé. Je le suis justement, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je sais très bien que En moi se trouve la racine des péchés, qu'est la concupiscence. Je vous rappelle, en citant un auteur, je vous rappelle la définition de la concupiscence. La concupiscence est une inclination et une pente que nous avons à toute heure de nous éloigner de Dieu pour nous porter vers les créatures. Oui, la concupiscence, ce n'est même pas une pente au blasphème, ce n'est pas même une propension à l'athéisme. C'est une pente et une inclination que nous avons à toute heure de nous éloigner de Dieu pour nous rapprocher des créatures. C'est ce qu'on appelle, lorsqu'on n'est pas chrétien, tout simplement la nature, le comportement naturel de l'homme. Eh bien, mes très chers frères, cette pente naturelle témoigne du dérèglement de notre nature. Lorsque nous regardons un petit enfant qui vient de naître, qui n'est pas encore baptisé, eh bien, nous voyons quelque chose, évidemment, de très mignon, très joli, etc., d'innocence sous un certain rapport, c'est-à-dire que cette personne, de tous les êtres humains, c'est celui qui a nui le moins à son prochain. La seule chose, que voyons-nous du point de vue de la foi? Nous voyons un être qui est affligé d'un dérèglement si profond qu'à moins qu'il ne soit mis à mort et ressuscité par les eaux du baptême, je parle du baptême, bien sûr, eh bien, il ne peut pas plaire à Dieu. Dieu porte sur lui un regard d'horreur courroucé à cause de la pente naturelle qui est celle de sa nature. Pourquoi? Parce que, in principio, Dieu n'a pas créé l'homme tel que l'homme vient au monde aujourd'hui. Et donc, c'est donc à juste titre, iusté, c'est à juste titre que nous sommes affligés pour nos péchés. Parce que tout dans notre nature est dévié. Nous sommes dans une corruption qui est si entière et totale que nous ne pouvons plus rien que pour le mal. C'est pour cela que le Père, dans son immense clémence, a envoyé son Fils, afin que, en lui, nous ayons tout et nous soyons réconciliés avec lui, et car hors de lui, il n'y a ni salut, ni espérance, il n'y a que l'attente du feu de la colère de Dieu qui s'abat sur les méchants. C'est pour cela que nous sommes justement affligés. Ut qui iuste pro peccatis nostris affligimur. Nous qui sommes à juste titre affligés pour nos péchés, nous qui sommes selon toute justice. Qui iuste ici, c'est la clé de la pénitence. Quelle est la clé de la pénitence? Je vous la donne, mes très chers frères. C'est de reconnaître la justice des jugements de Dieu. Personne ne fait jamais pénitence comme il le doit s'il ne reconnaît pas que Dieu peut, à juste titre, le juger et le condamner. Et, d'une certaine manière, c'est une chose évidente. On ne va pas demander à Dieu pardon si l'on ne sait pas pourquoi on lui demande pardon. La clé de la pénitence, c'est de reconnaître que de toutes les façons dont nous tournons, de toutes les manières dont nous tournons notre nature, nous retournons dans notre esprit, notre nature, nous sommes dignes du juste jugement de Dieu. La clé de la pénitence, c'est donc reconnaître la justice des jugements de Dieu. Ainsi, rien ne nous paraîtra injuste, si nous avons la clé de la pénitence, rien ne nous paraîtra injuste que l'amour désordonné que nous portons à nous-mêmes et aux créatures. Est-il juste que Dieu me prive de ceci? C'est juste à cause de mes péchés. Est-il juste que Dieu me fasse endurer cela? C'est juste à cause de mes péchés. Est-il juste que Dieu me soumette à telle injustice? C'est juste à cause de mes péchés. Est-il juste que, en tant que légitime propriétaire selon le droit humain, selon le droit temporel plus précisément, je jouisse des biens qui m'appartiennent? Non, c'est injuste. Je peux en jouir, mais comme n'en jouissant pas. Je peux en user, mais comme n'en usant pas. Parce qu'il n'est pas juste que je me laisse aller à la pente de ma nature, à la pente de la concupiscence qui me rapproche, qui me porte vers les créatures, tout en me détournant de Dieu. Il y a une façon juste d'user des créatures, c'est évident, c'est pour cela que nous pouvons nous sanctifier, puisque nous sommes capables d'user des biens de ce monde qui relèvent de notre état pour notre sanctification, pour la gloire de Dieu, mais usant comme n'usant pas. Il n'est pas juste que j'use du monde indépendamment de Dieu et non dans la perspective de Dieu. Qui iuste. Il y a aussi une autre perspective, un autre enseignement dans ces mots, qui juste qui à juste titre, qui justement, qui selon la justice, c'est que nous qui sommes justement frappés, nous sommes frappés par la main d'un Dieu qui ne se trompe pas dans ses jugements. Donc d'un côté, nous reconnaissons, c'est la clé de la pénitence, la justice des jugements de Dieu, et d'un autre côté, nous savons que ces jugements, ça ne va pas de soi, que ces jugements sont portés par un Dieu infaillible. C'est-à-dire que, quelque injuste que soit la chose qui nous arrive, nous savons que c'est justice, aux yeux de Dieu. Sinon aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. La racine de l'humilité, c'est de reconnaître que la concupiscence est une infection qui vicie radicalement notre nature et qui nous rend indignes, et qui nous rend dignes, pardon, au contraire, d'être affligés. Et quand bien même nous ne serions pas affligés parce que Dieu aurait décidé qu'il en serait autrement, nous devrions être affligés en solidarité avec tous nos frères qui souffrent. Si je ne suis pas actuellement affligé, je dois quand même pleurer avec ceux qui pleurent. Si je dois me réjouir avec ceux qui se réjouissent, quand bien même je serais affligé dans le même temps, je dois être affligé avec ceux qui sont affligés, afin de porter avec eux le fardeau de leur péché et le fardeau de leur repentance et de leur pénitence. Lorsque nous voyons quelqu'un qui fait pénitence, nous ne devons pas l'enfoncer en disant « bah oui, c'est bien fait parce que c'est un grand pécheur ». Non, nous devons plutôt partager, secrètement la plupart du temps, mais partager sa pénitence en disant « Oh Dieu, faites-moi la grâce de m'accorder de faire pénitence comme vous lui faites la grâce de lui accorder de faire pénitence à cause de la justice de vos jugements ». Ut qui juste pro peccatis nostris affligimur. Vous voyez, et tout ce que nous pouvons apprendre de ces paroles qui semblent des paroles comme ça, entre deux virgules, qui sont comme une sorte d'incise sans grande conséquence. Ut qui juste pro peccatis nostris affligimur. Nous, ou afin que nous qui sommes à juste titre pour nos péchés, à cause de nos péchés, affligés. Il y aura encore bien des choses à dire, mais il faut passer à la troisième partie. Protui nominis gloria misericorditer liberemur. Pour la gloire de votre nom, que nous soyons, donc nous demandons que pour la gloire de votre nom, nous soyons miséricordieusement libérés. Donc, dans cette troisième partie de l'oraison, le mot central, c'est le verbe, liberemur. Encore un verbe au passif. Liberemur, que nous soyons délivrés. Mais justement, que nous soyons délivrés de quoi ? Ce n'est pas dit dans l'oraison. Des fois, on dit de l'injustice des hommes, parfois on dit des dangers naturels, des dangers du corps et de l'âme, que sais-je. Ici, que nous soyons délivrés dans l'absolu. Alors, mes très chers frères, je vous donne une clé. Lorsque l'on demande à Dieu d'être délivré, absolument, c'est d'être délivré du joug de la concupiscence, c'est-à-dire de la tyrannie de nous-mêmes. Lorsque nous demandons à Dieu d'être délivré, c'est d'être délivré du joug de la concupiscence, de la tyrannie de nous-mêmes. La liberté de la nature déchue n'est que l'esclavage des passions. D'une certaine manière, il est tout à fait juste, vrai, et on doit le dire, que l'homme naturel, tel qu'il est depuis la chute, est libre. Il est absolument libre. Personne ne le force à pécher. Il pêche entièrement par sa propre détermination, par sa propre volonté. Et même, des fois, il ne veut pas pécher. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il troque un péché pour un autre. Vous voyez ? Il ne veut pas commettre l'adultère, parce qu'il y a trop de dangers, trop de problèmes. Il ne veut pas tuer son prochain, parce qu'il ne veut pas avoir de problème avec la police. Et donc, du coup, il le hait, il le méprise. Il troque un péché pour un autre. Il le fait totalement, librement. C'est en ça que consiste la totale liberté de l'être humain. L'être humain peut faire exactement tout ce qu'il veut. Le problème, mes très chers frères, c'est que la seule chose qu'il ne veut pas, c'est la chose qui, dans la nature en état d'innocence, ou dans la nature en état de grâce, c'est encore mieux, est le propre de l'être humain, c'est-à-dire vouloir Dieu, vouloir le bien, vouloir être uni au Christ, vouloir diminuer pour qu'il croisse en nous. C'est la seule chose qu'il ne veut pas, qu'il ne peut pas vouloir. C'est la seule chose qu'il doit pourtant vouloir, et qu'il ne peut plus vouloir que par une grâce spéciale et efficace que Dieu lui donne en vertu des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'homme est totalement libre pour faire tout ce qu'il veut, et tout ce qu'il veut est péché. Lorsque nous demandons à Dieu d'être délivré, c'est d'être délivré de cette liberté qui ne sert à rien sinon à pécher. Libérez-nous de la liberté de suivre notre pente. Libérez-nous de la liberté de la concupiscence pour faire de nous des esclaves de la justice, pour faire de nous des êtres humains au sens propre du terme, c'est-à-dire des êtres, des créatures rationnelles, des créatures raisonnables, qui soient capables de vouloir ce qui est véritablement leur vrai bien. Je vous renvoie au sermon que nous avons fait précédemment. Donnez-nous de pouvoir vouloir ce qui est notre vrai bien. C'est cela le sens de libérez-moi, que nous soyons libérés, que nous soyons délivrés, que nous soyons délivrés du joug, de la concupiscence, de la tyrannie de notre volonté propre qui nous pousse infailliblement au péché, et sinon à tel péché, du moins à un autre péché. Délivrez-nous du joug de la concupiscence. Nous demandons à Dieu d'être délivré dans l'absolu, afin de pouvoir faire sa volonté, et non pas la nôtre, selon la parole de notre Seigneur, non pas ma volonté, mais la vôtre. Vous voyez quelle difficulté il y a à prier de tout son cœur cette prière, qui est la prière que l'Église nous fait prier aujourd'hui, mais qui est une prière que nous prononçons contre le vieil homme. Le vieil homme se révolte à peu près à toutes les paroles, à tous les mots de cette prière. Relisez-la bien du point de vue du vieil homme, et vous verrez que le vieil homme n'aime pas être membre du corps du Christ, il n'aime pas prier, il n'aime pas s'entendre dire qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu, il n'aime pas s'entendre dire qu'il est pécheur, il n'aime pas s'entendre dire qu'il est affligé à cause de ses péchés, il n'aime pas s'entendre dire que c'est à juste titre qu'il l'est, et il n'aime pas non plus la gloire du nom de Dieu, et il n'aime pas la perspective d'être délivré, parce que pour lui, la perspective d'être délivré, c'est la perspective de mourir. C'est une prière que nous devons prier de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout notre cœur. Pourquoi ? Parce que c'est une prière qui est la demande de la condamnation à mort de ce que nous ne sommes plus par le baptême, c'est-à-dire de ce vieil homme, de ce vieil Adam, de ce que nous sommes dans le premier Adam. Sachons, mes très chers frères, demander ce qu'il nous faut pour pouvoir sachons désirer être exaucé. C'est une grâce de Dieu. Comment désirons-nous être exaucés ? On ne peut pas dire à Dieu, mon Dieu, faites mourir le vieil homme en moi. Nous savons que c'est une prière c'est une belle prière, mais ce n'est pas comme ça que l'Église nous apprend à prier. Ici, elle nous apprend à demander exactement cela, mais justement, avec une sorte de subterfuge pour mieux piéger notre moi. Nous demandons donc que les prières de son peuple soient exaucées miséricordieusement, afin que nous qui sommes justement affligés par nos péchés, pour la gloire de votre nom, nous soyons libérés miséricordieusement. Pour la gloire de votre nom, pro tui nominis gloria. C'est notre avantage, c'est moins notre avantage que la gloire de Dieu que nous cherchons, la gloire du nom de Dieu. Tertullien dit que la plus grande gloire de Dieu, c'est le salut des âmes. Et nous désirons être sauvés, non pas pour échapper simplement à l'enfer, ce qui est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'on pourrait désirer être sauvé, échapper à l'enfer, et puis après faire la bamboula au ciel, ce qui serait vraiment une aberration, et c'est une impossibilité. Donc, nous devons désirer être sauvé, certes pour échapper à l'enfer, ce qui est déjà une bonne chose, mais pour que la gloire de Dieu rejaillisse sur son saint nom. Sauvez-nous pour pro tui nominis gloria. Exaucez-nous, sauvez-nous pour la gloire de votre nom. Nous ne pouvons pas vouloir la mort du vieil homme tel quel, parce que le bon grain est tellement lié à l'ivraie que d'une certaine manière, cela nous donnerait l'impression que nous allons nous transformer en une sorte de légume ou alors en une sorte de schizophrène, de fou, que sais-je. Ce n'est pas du tout cela le but de Dieu, bien entendu. Mais nous demandons, mais comment faire pour prier contre soi-même ? Il faut prier pour que la gloire du nom de Dieu la gloire du nom de Dieu apparaisse devant les hommes. Que votre volonté soit faite, que votre nom soit sanctifié, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Croire que le métier de Dieu, c'est de pardonner, c'est ajouter une offense à celle que nous avons déjà faite. Car c'est pour l'amour de lui-même qu'il nous pardonne, pour l'amour de son Fils. Proto in hominis gloria, c'est donc invoquer la gloire du Fils de Dieu, qui n'est autre que la gloire de son Père. Il y a un mystère trinitaire auquel il nous est donné de participer, mes très chers frères, dans cette expression proto in hominis gloria, pour la gloire de votre nom. Pour la gloire de votre nom, Seigneur, libérez-nous avec miséricorde, miséricorditaire. Miséricorditaire, ici, est le pendant de iusté. Nous n'allons pas faire de la littérature, mais nous voyons très bien dans le rythme de l'oraison qu'il y a nous qui, à juste titre, sommes affligés par nos péchés, que nous soyons libérés miséricordieusement. Iusté, miséricorditaire. Ce sont deux adverbes. Nous ne méritons pas qu'il nous délivre. Car si notre premier Père a fauté librement et nous a fait chuter avec lui, le plaisir que nous prenons à suivre notre inclination propre vers les créatures, vers nous-mêmes, témoigne que nous validons sa faute. Donc ne nous disons pas « Ah oui, mais moi, c'est pas moi qui ai mangé le fruit défendu dans le jardin d'Éden, je vois pas pourquoi je serais châtié à cause de lui. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait pire. Je n'aurais pas simplement écouté ma femme, j'aurais moi-même mangé le fruit. Pourquoi ? Parce que, lointain descendant d'Adam, j'aurais été, c'est pas impossible évidemment, mais j'aurais été dans un état de débilité beaucoup plus grande que lui, qui était pourtant dans l'état d'innocence, et il a fauté. Alors à combien plus forte raison, moi, pauvre rejeton, arrivé 6000 ans après lui. Donc vous voyez, mes très chers frères, miséricordieusement, nous demandons à Dieu que miséricordieusement nous soyons libérés. Dieu pourrait, en toute justice, nous laisser aller à notre nature. Après tout, nous l'aimons tellement, notre nature. Nous aurions peut-être même l'impression que Dieu nous favorise s'il nous laissait faire tout ce que nous voulons. Miséricordieusement, ici, c'est un mot que nous devons comprendre comme un mot qui sonne le glas de notre concupiscence, le glas de notre amour-propre, le glas de notre vieil homme. Miséricordieusement pour Dieu, c'est terriblement pour nous. Mais nous lui demandons sa terrible miséricorde. Ôtez-nous le vieil homme, détruisez en nous le vieil homme, plus précisément, faites-le mourir, afin que nous puissions vivre de la vie de l'homme nouveau. Entrons avec ces sentiments, mes très chers frères, dans ces prodromes au temps du carême. Prions de tout notre cœur durant cette semaine l'oraison du dimanche de la Septuagésime, afin que nous apprenions à prier, que nous apprenions à demander ce que nous devons vouloir, ce dont nous devons vouloir l'exaucement. Adorons la miséricorde du Dieu souverain, mes très chers frères, et prions-le avec l'Église, notre Mère, qu'il ne se contente pas de nous appeler, mais aussi de nous donner la grâce efficace sans laquelle nul ne peut être sauvé. Demandons-lui la vraie pénitence, l'esprit de mortification, demandons-lui par-dessus tout l'amour de Dieu, sachant que cet amour de Dieu est exclusif de l'amour de nous-mêmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.